Mesdames et messieurs, bonjour. Eh bien, vous avez compris, lorsque l'on parle d'effondrement et d'affaissement, il faut bien souvent vous dire une chose, l'eau n'est jamais très loin. Et quand on parle d'eau en langage minier, il est difficile d'éviter les termes exor et coup d'eau. Alors, qu'elle soit remplie d'eau sèche, sous voûte maçonnée ou soutenue par des arceaux métalliques, une exor reste souvent un des seuls ouvrages encore visibles, témoins discrets de l'activité minière passée. Elles ne sont pas toutes à l'épreuve du temps, bien sûr, et des effondrements localisés peuvent l'obstruer localement, partiellement ou totalement. Si l'eau ne s'évacue plus derrière, il y a un effet barrage, mise en pression et rupture. C'est le coup d'eau. Avant de vous parler du cas particulier du coup d'eau de Wandre et de la galerie de Chérat, j'aimerais vous montrer un plan. Je ne sais pas si on le voit clairement à l'écran. Ce plan représente notre zone d'étude pilote, où l'on voit avec les étiquettes, les nombreuses étiquettes, toutes les exors qui ont été répertoriées. Ces exors, en fait, drainent toute une série de galeries, des travaux miniers qui concernent les concessions du hasard et de Chérat. Et ces galeries donc, vont déboucher sur la rive droite au nord de Liège, la rive droite de la Meuse. Le coup d'eau de Chérat et de Wandre concerne des galeries placées de part et d'autre de la tranchée de Chérat. Alors, Wandre, mars 1983. À peine un an après l'arrêt des pompages miniers profonds, la nappe du Houillé remonte dans les anciens travaux et met sous pression les talus bordant les aciéries de la Meuse. Une arrivée d'eau envahit les bâtiments et endommage définitivement une partie de l'infrastructure. À l'heure actuelle, l'eau continue toujours à couler et le problème n'a toujours pas été résolu. Février 2002, au charbonnage du hasard à Chérat, la pression de la nappe brise le mur qui retient dans la galerie d'Exor. La rue de Visée à Chérat bas se retrouve sous presque un demi-mètre d'eau suite à l'irruption de quelques milliers de mètres cubes d'eau. Et il n'y a pas de victimes, heureusement. Les images ne sont pas aussi spectaculaires que celles de mes collègues, mais on voit en général, on n'est pas là au moment du coup d'eau, bien sûr, on ne voit que les résultats finaux. Mais comme vous voyez, les dégâts peuvent être très importants, non seulement à l'intérieur, mais également à l'extérieur, où on a retrouvé pas mal de caves inondées, et le sous-sol de cette zone est encore et maintenant toujours saturé. Le site est toujours en attente de réhabilitation. Alors, quelles peuvent être les causes et les conséquences, bien sûr, de ces coups d'eau? Bon, quand il s'agit de l'interruption d'un drainage gravitaire par obstruction dans le cas où l'exor d'une arène qui débouche à flanc de coteau, c'est évident. La cause est là, c'est l'effet barrage dû à l'éboulement. Mais ce coup d'eau peut également non seulement être cause, mais facteur d'autres éboulements ultérieurs. Il faut évidemment aussi, dans les causes, que je vous parle de l'ennoyage minier. Qu'est-ce que l'ennoyage minier? Alors, j'ai pour cela ici un double schéma. Dans la partie supérieure, on voit, disons, ce qu'est un travail, les chantiers miniers profonds, les pompages ont au départ, avant la fin des exploitations, rabattu la nappe jusqu'en bas des puits. Une fois qu'ils ont été terminés, cette nappe remonte naturellement, bien sûr, jusqu'aux galeries d'Exor à flanc de coteau. Et si tout se passe bien, ces galeries font leur travail et Exor, évidemment, les massifs. Jusqu'au moment, et on le voit là dans le schéma inférieur, jusqu'au moment où un éventuel bouchon vient entraver cet écoulement à la sortie d'une de ces galeries, et provoquer la remontée d'une nappe qui va mettre en pression tous les massifs et les vieux travaux. Alors, quelles en sont les conséquences? Bien sûr, il y a une instabilité de talus, des glissements de terrain, des suintements qui vont apparaître. Dans la nappe alluviale qui elle-même va être mise sous pression, il y a l'apparition de puits artésiens et des caves qui vont s'inonder. Et bien sûr, si le bouchon en question n'a pas la résistance suffisante, il y a la rupture et coup d'eau. Quelles sont les conséquences? Pour les conséquences, On les a cités un petit peu, je vais les illustrer un petit peu. Il y a les infiltrations, comme on le voit ici le long de certains murs en béton, au bord de talus. Il y a des puits qui se mettent à déborder. Il y a des caves qui sont inondées et même des infiltrations le long du talus sur les chaussées, la voirie existante. Vous voyez souvent que ces infiltrations sont colorées en rouge à cause de l'oxyde de fer. Il n'y a pas que ces conséquences-là qui sont à déplorer, malheureusement. Il y a également l'aspect pollution des eaux souterraines et de surface. Comme on peut le voir, si j'arrive à placer le curseur au bon endroit, comme on peut le voir dans certaines photos, voilà, on constate que l'eau minière qui sort de ces exores est souvent chargée en sulfate de fer. Ce sulfate qui, une fois mis en contact avec l'air ambiant à l'extérieur, va précipiter en hydroxyde de fer sous la forme de flocculats rouges qui vont flotter au départ et qui vont décanter par la suite, ou bien des boues rouges qui vont colmater les canalisations. Ici, on voit quelques vues concernant ce genre de colmatage assez spectaculaire. Donc, tout drain placé par la suite ne servira pas à grand-chose. Et ici, on voit également les chambres de visite et le ruisseau canalisé qui commence à se colmater complètement aussi là. Alors, quelques solutions pour cela. Les solutions pour réduire le risque, il y en a plusieurs, mais les principales, évidemment, consistent, une fois qu'on a recherché l'exore, qu'on a recherché et retrouvé les ouvrages, il faut les sécuriser. Il faut sécuriser cette infrastructure existante, si elle est accessible, bien sûr, afin de renforcer leur stabilité, du moins dans les derniers mètres proches de la surface, et empêcher toute intrusion, parce que celle-ci est assez souvent fréquente, et permettre, bien sûr, un écoulement pérenne des eaux qui sont encore présentes. Par la suite, on peut également mettre en place des ouvrages complémentaires. Quand on parle d'ouvrages complémentaires, c'est forer des puits en amont de ces exors, à l'amont du massif, de telle manière à contrôler le niveau piézométrique qui se met en place suite à un éventuel bouchon, et par la suite même à éventuellement utiliser ces forages comme puits de pompage pour amoindrir la pression d'eau qui serait derrière de cela. D'autre part, dans une zone critique comme celle que l'on étudie dans le nord de la zone nord de Liège, on peut mettre en place un monitoring piézométrique et débitmétrique. Et il y a lieu de surveiller ce monitoring avec des données que l'on va récolter au fur et à mesure des années afin de pouvoir surveiller ça de plus près. On obtient des graphiques de ce style-là avec à la fois la piézométrie qui est par exemple dans les courbes mauves et bleues foncées au-dessus, qui évolue en fonction de l'input, c'est-à-dire les données climatologiques, la pluviométrie et l'eau utile qui alimente ces nappes, et l'output, qui est les débits qui sont mesurés. Et on voit que si ces débits suivent fidèlement l'évolution de la piézométrie, ben, tout se passe normalement. S'il y a un problème, ben, la débitmétrie qui va tout d'un coup diminuer et que la piézométrie augmente, là, à ce moment-là, on peut commencer à se poser des questions. Alors, quelques rappels utiles. Il faut que l'on sache que ces phénomènes sont des phénomènes qui sont souvent discrets ou latents. On a vu qu'une exore qui est sèche n'est pas nécessairement une exore innocente. Elle peut se remettre en charge. Mais tout discrets qu'ils sont, ils peuvent avoir des conséquences très dommageables. On ne dispose pas de toutes les données, bien sûr, et nous n'avons pas ni les moyens, ni souvent le temps pour s'occuper de tout. Mais on compte évidemment beaucoup sur les acteurs locaux qui peuvent nous transmettre des informations, observations diverses importantes. Je parle par là des suintements, les inondations de caves, les débordements suspects ou la disparition, réapparition, d'écoulements dans les canalisations, ruisseaux ou résurgences, pertes, etc. Il faut en fait collecter un maximum d'informations sur la localisation des galeries reprises par des ouvrages d'égouttage, chose qui n'est pas toujours signalée aussi. Et là, on fait un petit clin d'œil aux intercommunales. Avec, Il faut également avoir des relations avec les infrastructures de voirie ou des chemins de fer qui possèdent également pas mal d'informations. Nous comptons évidemment sur tous ces gens-là pour collaborer et avoir des communications dans les deux sens, bien sûr. C'est très important. Je vous remercie pour votre attention.